Donc moi, je vais vous donner donc les documents. Là, moi, j'avais préparé, comme il faudrait additionner ce qu'on va dire, mais donc vous pourrez retrouver ces diapositives ou ces chiffres sur le site internet. On le laissera à disposition. Donc voilà, peut-être juste deux, trois mots. C'est dire qu'aujourd'hui, quand on parle du numérique, moi, j'aime pas trop le terme du numérique. Je parlerais plutôt des médias. Et du numérique ou des médias et de l'information du numérique. Le terme numérique est quand même un terme plutôt empreint de technologie, lié à la technologie. Or, ce qui va quand même nous concerner, c'est ce qui circule dans ces technologies, ce qu'on peut en faire, ce qu'elles véhiculent comme contenu ou ce qu'elles proposent comme contenu ou comme service. Donc, en tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas isoler un écran. En fait, tous les écrans, que ce soit, je sais pas, la télé, la console de jeu, le smartphone, l'ordinateur, etc., voilà, tout est lié, et donc on ne peut pas avoir une approche uniquement en termes d'écran. On y reviendra, je pense, mon collègue y reviendra sans doute. L'enjeu de l'écriture et de la lecture est renforcé. On pourrait parler des écritures, c'est-à-dire écrire dans des environnements non linéaires, hypermédias, lire ces environnements, faire de la recherche de données, etc. Donc l'écriture et la lecture, si on avait une crainte qu'elle passe en toile de fond, au contraire, il faut sans doute renforcer les apprentissages et élargir les apprentissages fondamentaux sur ces questions-là. Des pratiques ambulatoires, donc effectivement ce qui est nouveau, c'est en particulier ces petits appareils connectés sur réseau internet en permanence, donc voilà, qui nous accompagnent partout. Cette ambivalence médias de masse et médias personnels, c'est-à-dire qu'on est à la fois sur des médias de masse, on avait des rapports classiques avec des grands médias comme la télévision, la radio, dans ces modes de diffusion classiques. Aujourd'hui, on a plutôt des médias individuels qui relaient, y compris ces médias de masse, mais qui sont massifs, c'est-à-dire que l'équipement est massif, c'est ce qu'on va voir assez rapidement. Et puis, on est dans un environnement consumériste extrêmement important, donc on y reviendra aussi sur les enjeux éducatifs, c'est-à-dire que les enfants et les jeunes, mais aussi les adultes, on baigne dans un univers quand même d'une économie marchande. Donc voilà, donc comment on prépare les enfants et les jeunes à résister ou vivre dans cette économie marchande, ou quelles alternatives on a, ou en tant que citoyen, quel pouvoir on a éventuellement d'influer sur cet univers-là. Donc c'est quelques tableaux qui sont issus d'une enquête assez récente, Ipsos Connect Junior 2014, ça va vous donner un petit peu le taux d'équipement. Donc là, très centré, c'est assez difficile d'avoir des chiffres sur les tout-petits ou sur les enfants. Donc là, 7-12 ans en vert, 13-19, donc là, les ados et les jeunes. Donc vous voyez un peu les types d'équipements. L'ordinateur, bon, bah, dès les 7-12 ans, il y a déjà à peu près un quart des enfants qui sont équipés. Console de jeu, on est à peu près aux deux tiers, quel que soit l'âge. Le smartphone... Donc voilà, le type d'équipement. La télévision, là on est dans une logique d'équipement personnel auprès de ces enfants-là, c'est-à-dire qu'ils l'ont en gros dans la chambre. Et puis l'équipement des tablettes. Donc vous voyez un équipement très important et qui est immédiatement multi-écran. C'est-à-dire qu'un enfant ou un jeune, il va avoir accès à 3, 4, 4, 5 écrans facilement dans sa pratique, dans son univers quotidien. Donc là, j'en ai sélectionné quelques-unes, hein, c'est pas exhaustif. On parle beaucoup des tablettes, on y reviendra peut-être. Donc voilà un peu la photographie de l'équipement des tablettes. Vous voyez que les petits de 1 à 6 ans, là, je pense qu'on y reviendra. Il y a eu à peu près 10%, là, c'est 2013 là, les chiffres. Donc on est sans doute vers 10-12%. Les 7-12 ans, une vingtaine de pourcents. Et après, ça stagne. Récemment, moi, je travaillais avec des journalistes, là, avec le directeur de... du monde d'ailleurs, qui nous expliquait, par exemple, nos comportements. Le matin, c'est le smartphone, et le soir, c'est la tablette. Donc ça veut dire qu'ils vont développer et leur contenu, les animations de leur contenu, en fonction des supports qui vont varier, puisque ce n'est pas forcément les mêmes paginations, la même ergonomie qu'ils vont mettre en œuvre. Donc ça, c'est des chiffres qui datent de 2013. Donc on ne va pas rentrer dans le détail, hein, parce que vous voyez, c'est des chiffres qui sont en haut à gauche en fonction de l'âge. Ce qui est intéressant, c'est de voir, donc là c'est le taux d'équipement smartphone en fonction de l'âge. Donc vous voyez un pic, donc on a sur un équipement très générationnel, et 18-24, on est à peu près aux trois quarts des jeunes qui sont équipés d'un smartphone. Et à droite, c'est en fonction du niveau d'études. Vous voyez que c'est un facteur qui est quand même... qui a une incidence. En bas à gauche, c'est du revenu des foyers, idem. Et puis en bas à droite, c'est la courbe, là, elle est un peu plus plate. C'est en fonction du milieu rural ou du milieu urbain. En milieu urbain, on est quand même un peu plus équipé qu'en milieu rural, hein, 47%, 30%. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on a des chiffres très très précis. C'est-à-dire quand on veut avoir un travail précis sur les usages, les pratiques, etc., on a beaucoup de documents. Donc là, c'est juste pour attirer notre attention quand on parle des pratiques des enfants et des jeunes, où on va dire qu'il y a des gros consommateurs, il y en a qui passent leur temps à jouer, il y en a d'autres qui passent leur temps à lire ou à pas lire, voilà, etc. Il faut qu'on soit très attentif sur les questions des moyennes. Quelles que soient un peu les manières d'aborder ces questions-là, on trouve à chaque fois, en gros, 5 groupes d'utilisateurs, d'usagers, qui pèsent presque tous une vingtaine de pourcents. Donc ça veut dire que là aussi, le discours qu'on va avoir vis-à-vis des pratiques des enfants et des jeunes, eh bien, quand on a un groupe de 20, 25 ou 30 jeunes, ou là, quand par exemple vous êtes là, eh bien, vous en allez avoir peut-être un tiers qui sont, je sais pas, en violet, donc ils font beaucoup de presse, beaucoup d'écran, d'autres qui vont faire peu de presse et beaucoup d'écran, d'autres pas beaucoup d'écran, etc. C'est-à-dire que la population n'est pas homogène. Donc dans les discours, les pratiques, les recommandations qu'on va avoir vis-à-vis des jeunes, il faut être assez attentif, être assez fin, parce que vous pouvez avoir un discours qui va concerner 20%, un élève sur 5, par exemple, ou un jeune sur 5, et les 4 autres, vous aurez beau leur parler de ça, ils ne se reconnaîtront pas dans ce que vous dites de leur pratique. Donc du coup, votre parole en tant qu'éducateur, elle ne sera pas crédible, puisqu'ils diront « mais qu'est-ce qu'ils me racontent ? Moi, je ne suis pas du tout comme ça. » Voilà. Donc il faut rentrer sur des études plus fines, et on a tous ces outils-là pour avoir ces études plus fines. On peut faire des zooms sur les suréquipés, comment ça se passe, etc. etc. On y reviendra sur les écarts de consommation entre les générations. Vous voyez à gauche, c'est les 12-17 ans. En violet, le temps Internet, en blanc, le temps télévision, et en vert, le temps ordinateur. Bon, c'est assez difficile de faire des coupures, parce que sur Internet, on peut aussi regarder la télévision, etc. Mais quand même, là, c'est plutôt les usages classiques de la télévision comme écran de télévision, Internet comme écran nous emmenant vers d'autres univers, et puis et l'ordinateur plus sur des fonctions classiques de recherche de données, etc., etc. Donc vous voyez, à gauche, c'est les jeunes, à droite, c'est les adultes. Donc une différence notoire de pratique entre les deux. Un temps d'écran saturé, ben on arrive, et y compris les industriels, parce que c'est des études, la Junior Connect 2014, elle est faite par Mickey, Bayard Press, en fait tous les grands éditeurs de presse écrite pour enfants qui veulent regarder quels sont les comportements des enfants pour adopter leur stratégie dans leur offre vis-à-vis de ces classes d'âge. Donc en fait, aujourd'hui, on arrive à des temps saturés. C'est-à-dire que là, il y a un problème même. Voilà, l'enfant, à un moment donné, il ne va pas pouvoir passer plus de temps. Donc là, vous avez les repères. Pour les 1-6 ans, c'est en bas. Hein, 3h10 surfer sur Internet, c'est quand même assez impressionnant. Par semaine, hein, 7h20, regarder la télévision. 2h40, c'est les petits. Puis au milieu, vous avez les 7-12. Et puis les 13-19, le temps passé à jouer des jeux vidéo, regarder la télévision et surfer sur Internet. 3 grandes pratiques qui ont été isolées. Les réseaux sociaux, si on est amené à en parler, qu'on ait un peu ce repère. Là aussi, c'est quand même une pratique assez générationnelle. Là, on est quand même en train d'observer que bon, ben, les jeunes qui pratiquent beaucoup, ben, quand ils vieillissent, voilà, la courbe va se décaler. Mais on a peu de repères par rapport à ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on va garder des pics ? Est-ce qu'il va y avoir un effet générationnel derrière ? Donc voilà. Et vous voyez que les réseaux sociaux, en bas à droite, dans le détail, vous ne voyez pas trop, mais elle est plate. C'est-à-dire que par rapport aux revenus, là, les moins de 900 euros, ils ont plus de pratiques sur des réseaux sociaux que ceux qui sont... Donc là, on va commencer à rentrer, y compris comment l'éducation doit corriger ou pas des fossés culturels qui peuvent se créer sur les usages. Et tout ça, on peut l'appuyer sur une connaissance des chiffres assez précis qui vont permettre de construire des stratégies éducatives assez ciblées. Voilà, juste ce qu'on appelle l'essor de l'éphémère. Alors ça va peut-être chuter compte tenu des fuites qu'il y a eu, hein. Vous savez, ces applications qui permettent pendant une demi, du moins un temps très très court, d'afficher une photo très éphémère, comme ça elle ne reste pas en mémoire, et a priori, il n'y a pas de traces. Le problème, c'est qu'il n'y a pas longtemps, il y a des sites qui ont sorti, je sais pas, plusieurs centaines de milliers de photos de ces usagers. Et donc là, il y a un problème, là, la promesse, je ne sais pas ce que tu diras, la promesse commerciale n'était pas tenue, puisque l'idée, c'est que du coup, les ados, ils peuvent passer des photos, donc ils veulent que personne les ait vues après, quoi, il y a un effet. Et ça, c'est une grosse pratique. WhatsApp et Snapchat, c'est les champions. Génération YouTuber, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la manière de regarder la télévision est complètement différente. Et il y a de nouvelles chaînes qui apparaissent. Alors déjà, quand on était assez classique, moi je disais ça il y a 10 ou 15 ans, jusqu'à 9-10 ans, en gros, les enfants, ils regardaient ou ils regardent à la télévision ce qui leur est destiné. C'est-à-dire des programmes pour enfants. Mais quasiment vers 9-10 ans, ils basculent, ils ont une consommation la même que les adultes. Donc voilà. Donc là, aujourd'hui, il faut mixer ça avec le fait que ce n'est pas que les chaînes éditées classiques qu'il faut repérer, mais c'est tout ce qu'il y a sur YouTube. Bon, après, il peut y avoir des zones de YouTube ou de Dailymotion. Il y a Kids Dailymotion, des zones pour les enfants. Il y a, bon voilà, Gulli, c'est le replay, c'est-à-dire c'est le temps différé sur une chaîne pour enfants, etc., etc. Donc il y a des modes de consommation de télévision qui sont aujourd'hui très, très, extrêmement, extrêmement diversifiés. Juste un exemple, dans le top 10 des 10 émissions préférées des enfants de 10-11 ans, donc la source est Médiamétrie CSA, vous avez 8 émissions de télé-réalité, genre Koh-Lanta, etc., qui sont les plus regardées pour les enfants. Donc c'est-à-dire qu'à certains moments donnés, il va falloir mettre le focus éducatif sur les chaînes éducatives, mais vous voyez, il faut faire aussi pression sur... et là, on vient de saisir, je le dis maintenant, là, on a saisi le CSA cet été, puisque Hachette Lagardère, sur sa chaîne Gulli pour enfants, vient de diffuser, de concevoir ce qu'ils ont appelé, du moins la presse a appelé ça le Koh-Lanta pour enfants, c'est-à-dire une émission de télé-réalité pour enfants sur une chaîne pour enfants. Donc là, c'est le franchissement pour nous, éducateurs, de la ligne rouge, puisqu'on considère de fond que ces émissions sont anti-éducatives par les valeurs qu'elles véhiculent, etc., etc. Il y en a encore 2-3, puis je vais terminer un petit peu ce panorama pour qu'on ait bien une vision, là, que ça nous plonge un peu immédiatement. L'influence de l'âge sur des pratiques, hein, les déconnexions qu'on peut avoir, etc. La musique, donc effectivement qu'il y a une pratique jeune en streaming, surtout maintenant, voire en téléchargement. Vous voyez la courbe. Hein, la même chose sur le visionnage de films ou de séries sur Internet. Une courbe qui est quand même assez décalée. Ça chute très vite à partir de 25. Bon voilà, alors là aussi, est-ce que dans les années on va l'avoir décalé, ou est-ce que les modalités de vie familiale, le fait après d'avoir des enfants ou de rentrer dans la vie active, fera que les médias vont se repositionner autrement ou pas? On a peu trop de visibilité par rapport à ça. Alors ça, c'est une pratique qu'il faut savoir aussi, ce qu'on appelle en fait en français le second écran ou le multitasking. C'est que en gros, aujourd'hui, les jeunes, ils ont deux écrans en permanence. Ils regardent la télé en même temps, ils sont connectés sur Internet. Donc voilà, quand ils regardent la TV, il leur arrive de, ben voilà, vous en avez un sur deux qui surfe sur Internet. Bon, 16% qui jouent à des jeux vidéo, etc., etc. Donc c'est une vraie pratique parce que d'abord, il faut la prendre en compte. On peut discuter sur le fond ce que ça induit, mais c'est surtout que ça rentre dans une stratégie commerciale des éditeurs de programmes télévision, c'est de récupérer l'audience. Comme les gens, bah, ils passent sur un autre écran, donc à la limite, si vous passez de la pub, etc., ça ne sert plus à rien de payer des centaines de milliers de spots publicitaires. Si les gens vendent de la pub, ils passent sur un autre écran. Donc toute la stratégie aujourd'hui des éditeurs de programmes télé, c'est de les récupérer sur le second écran. Donc créer de l'interactivité sur le second écran lié au programme principal, etc. Donc là, il y a vraiment des stratégies commerciales qu'il faut, à mon avis, démonter un peu et travailler avec les jeunes. Voilà, donc... autour de trois que font les jeunes sur Internet, bon, par exemple, s'ils lisent et consultent, là, c'est une autre manière de présenter des chiffres. Vous avez 20% des 3-6 ans qui ont une pratique solitaire d'Internet. On y reviendra si... Voilà, 10% des 13-17 ans passent plus de 10 heures par jour en ligne. C'est là, on attire l'attention sur éventuellement peut-être des types de populations avec lesquels, dans nos projets éducatifs, il va falloir qu'on ait une réponse précise. 70% des 13-17 ans disent mentir à leurs parents sur ce qu'ils font en ligne. Voilà, ça c'était lire, consulter. Rédiger, publier, changer, hein, qui est un autre gros paquet de pratiques médiatiques. Donc, alors 98% des lycéens ont un compte Facebook. 20% des moins de 13 ans ont un compte Facebook. Vous savez que la loi américaine, puisqu'on est sous le droit américain, californien, c'est en dessous de 13 ans, pas de compte Facebook. Et dans ces cas-là, 97% des parents sont au courant d'ouvrir des comptes Facebook pour des moins de 13 ans, etc. Donc 55% des jeunes parlent avec leurs parents de ce qu'ils font sur Facebook. Bon, ça c'est bien pour 55%, c'est-à-dire qu'il y en a 45% qui n'en parlent pas. Bon, et après, voilà, 50% des jeunes sont seuls sur Internet. Et 92% utilisent leur identité et laissent des infos privées sur Facebook. Ça, c'est la CNIL qui nous donne ces informations. Vous les retrouverez dans le compte-rendu. Et puis la dernière pratique aussi, surjouer. Bon, ben, on en a un petit peu parlé. Souvent, on dit que les jeunes y jouent, mais c'est surtout les adultes, les plus grands, qui jouent aussi. Donc voilà, il faudra que notre réflexion elle prenne en compte ces éléments-là. La grosse problématique sur les jeux, sur laquelle nous, on s'était un peu battu quand sont arrivés les jeux, les paris en ligne, les jeux en ligne, etc., c'est en fait tout ce qui se joue en termes d'argent sur les jeux, notamment vers les mineurs, et le faux concept de gratuité, quoi. Il y a une exposition là, qu'on a fait là, pour des jeunes. Vous pourriez jeter un coup d'œil à la sortie. Je crois qu'il y a un panneau sur les jeux. Et on a pris le slogan d'un jeune qui dit du moins, où c'est cher pour du gratuit ou choses comme ça. Voilà, il y a des coûts cachés qu'il faut décoder. Donc voilà. Et ça, c'est la dernière diapositive. C'est un feu sur l'intervention des parents. Sur la question, avez-vous mis des règles concernant vos enfants qui limitent le temps sur une variable qui est le temps, déjà, c'en est une. Ben vous voyez, voilà, oui, c'est en violet. Donc globalement, il y a, mettons, une famille sur deux ou un parent sur deux qui, à un moment donné, donne des règles sur le rapport au temps, quand je dis un temps saturé tout à l'heure, voilà, dans les familles. Hein. Sur téléphoner, c'est même un tiers, et autrement, c'est 47, 49, 49. Donc voilà pour la première petite introduction, du moins, qui nous donne le paysage. Donc, s'il fallait se le repréciser, le voilà.